Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se fait l'apôtre, cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête, la poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Enfin, c'est simple, on a été des juifs de France déportés 76 000. On est rentré 2500. Bon, aujourd'hui, si on est 200, ça va être le maximum en France.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est la première d'une série de trois consacrée à Claude Bloch. Claude Bloch est en 1940 un jeune adolescent lyonnais de 12 ans qui va se trouver confronté à travers sa famille à la politique raciste du gouvernement de Vichy dès sa mise en œuvre. Il sera finalement arrêté, emprisonné à Montluc, transféré au camp de regroupement de Drancy, puis déporté par le dernier convoi parti de Drancy pour Auschwitz. Début janvier 1945, il sera transféré au camp du Stutthof en Pologne, d'où il sera évacué par les SS par bateau jusqu'à Flensburg et parqué sur un vieux cargo. Le 10 mai 1945, il sera transféré en Suède par la Croix-Rouge et il rentrera à Lyon le 22 juillet 1945. Aujourd'hui, à 82 ans, toujours engagé dans diverses associations mémorielles, il a bien voulu confier à Radio Canu pour l'émission Bistantlac le récit de son parcours de vie que nous allons évoquer au fil de ces trois émissions. Cette première émission est consacrée plus précisément au thème de l'histoire de sa famille et du récit de son vécu de la période de la guerre jusqu'au 22 juillet 1944 où il se retrouve à Drancy. En préambule, après une courte intervention de Claude Bloch extrait de notre entretien, vous avez pu entendre la berceuse tragique interprétée par Sarah Gorby. Merci de votre attention et bonne écoute. Monsieur Bloch, bonjour. Je vous remercie de m'accorder cet entretien pour Radio Canu. Entretien dans lequel nous allons évoquer votre parcours et en particulier votre période de déportation. Mais je vous propose peut-être pour commencer que vous nous parliez un petit peu de votre enfance, de vos parents, le milieu dont vous êtes issu.
Oui, je suis né le 1er novembre 1928. J'avais à Lyon, à l'époque, comme famille, mes grands-parents maternels et mes parents. Avant moi, j'avais un frère aîné qui est mort à la naissance. Après moi, en 1931, j'ai un autre frère qui est né, mais il est malvenu au monde, il a été serré au fer, l'accouchement s'est mal passé, et il était handicapé quand il est né. Et il est mort à l'âge de 18 mois en 1933. Donc, sur le coup, ça m'avait porté, j'avais 5 ans. On m'avait habitué à m'occuper de lui, lui donner son biberon, parce qu'on savait qu'il allait être handicapé et que ça pouvait me poser des problèmes par la suite. Donc, je l'ai beaucoup pleuré à l'époque, malgré que j'avais que 5 ans quand il est mort. Mais finalement, après les événements qui sont produits 6 ans après, je me félicite qu'il soit mort à cette époque-là. Donc voilà, puis à Tours, j'avais la sœur de mon père qui habitait avec son mari, qui n'a pas eu d'enfant, qui eux ont été arrêtés en 1943 et ne sont pas revenus. Donc ma jeunesse s'est passée.
Vos parents exerçaient quelle profession ?
Mon père était représentant de commerce. Mmh. Il avait une petite affaire de pelle de pioche à l'époque, ça se faisait même à Lyon. Et il voyageait comme ça pour vendre son matériel. Il avait un petit magasin à Lyon qui était tenu par ma mère et mon grand-père.
Et vous étiez dans quel quartier ?
À Perrache, où je suis toujours du reste. Mmh. Où j'ai toujours habité. Je ne suis pas au moto que pour naître. J'ai toujours habité Perrache.
Donc votre jeunesse, vous me disiez.
Ma jeunesse s'est passée normalement. Dans un premier temps, j'avais mes parents, mon père, ma mère. On avait notre appartement à l'époque Gaëton, toujours à Perrache. Donc ça s'est passé normalement, une enfance normale, école maternelle, école primaire, au groupe Michelet, rue de la Charité. Et puis les années s'écoulaient comme ça, tranquillement. Et mon père est décédé en 1938. Donc à ce moment-là, avec ma mère, on est allé habiter rue Franklin, un petit appartement de 2 pièces, à la même adresse d'où habitaient mes grands-parents. Mes grands-parents habitaient un appartement sur rue, grand appartement que j'occupe maintenant, avec ma mère, à la même adresse mais sur cour. On avait un petit appartement de 2 pièces, et bien sûr, ma mère s'est mise à travailler comme salariée.
Oui, parce qu'il y avait un problème économique.
Un problème économique du jour où mon père a disparu.
Et votre famille, vous avez quitté Lyon à ce moment-là ?
Non, on était toujours à Lyon, on était toujours aux mêmes adresses.
Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la débâcle, même des Lyonnais.
Non, c'est surtout les gens du Nord qui ont fait la débâcle, qui arrivaient, qui étaient sur les fronts. Nous, bien sûr, on a vu arriver les Allemands à Lyon, mais aller où ? Ceux du Nord, ils venaient à l'Ouest ou dans le Sud. Nous, on était coincés, on ne pouvait pas aller bien plus loin.
J'ai rencontré, vous étiez très jeune, mais les gens qui avaient 18-20 ans sont partis au moment de l'arrivée, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être réquisitionnés par les Allemands.
Oui, c'est possible. Alors,
et ils sont revenus très vite, mais ils sont, dans un premier temps, ils ne
pouvaient pas aller bien loin, parce qu'ils pouvaient aller dans le Sud.
Ils allaient dans le Midi.
Oui, c'est ça. Donc, comme les Allemands allaient très vite, ça a dû durer bien longtemps. Non, nous, on est restés. Bon, en 39-40, ma mère avait été embauchée à la préfecture pour remplacer les hommes qui avaient été mobilisés. Donc elle était comme auxiliaire, elle travaillait à la préfecture du Rhône. Elle est entrée en septembre 39, donc elle travaillait là. Bon, l'année 40, comme ça, donc l'armistice, hein, donc elle était toujours là. Entre-temps, 1939-40, elle m'avait laissé chez des gens à Colonge-au-Mont-d'Or, chez qui j'allais tous les étés, qui est une petite pension de famille pour enfants. Elle m'avait laissé pour l'année scolaire, en pensant effectivement que je serais plus en sécurité qu'à Lyon. Et elle, la préfecture, s'était repliée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à l'époque. Donc elle était beaucoup à Saint-Cyr au Mont-d'Or, et moi de Collonge à Saint-Cyr, je montais à pied pour la voir le dimanche. Donc voilà, elle est restée peu de temps à la préfecture, puisque un des premiers actes du gouvernement de Pétain, ça a été, sans que les Allemands demandent rien du reste, d'édicter la loi du 3 octobre 1940, la première loi anti-juive, qui interdisait par cette loi, entre autres, aux Juifs d'occuper des fonctions dans le public et d'autre part d'exercer des professions libérales comme avocat, notaire, etc. Donc à ce moment-là, ma mère a dû quitter la préfecture et chercher du travail ailleurs, ce qu'elle a trouvé. Bon, donc voilà, en octobre 40, on était comme ça.
Elle a fait quoi comme travail après ?
Elle était comptable, secrétaire comptable, de la comptabilité. Bon, ben là, elle s'est trouvée à un magasin qui s'appelait le Grand Manufacturier des Vosges, qui était quai de la Pêcherie, là, qui était en face de l'ancien pont du Change. Donc, elle était très bien, la Madame Maïegui, dont j'ai un très bon souvenir, pour différentes choses, hein. Donc elle a travaillé là jusqu'en 40-41. En 40, elle a cru bien faire après mon certificat d'études, en pensant que je mangerais mieux de me mettre à l'école d'agriculture de Sibas, mais ça me plaisait pas du tout. J'ai passé 40-41, 41-42.
C'est quoi cette école d'agriculture? Elle était où?
Elle est à du côté de Trévoux là-bas. Plus loin que Trévoux.
Plus loin de Trévoux.
Oui, pas loin de Ars. Ouais,
ça existe toujours.
Pas très loin, elle existe toujours. Ouais, oui. Ouais. Elle existe toujours, cette école. À l'époque, c'était une école qui était municipale. Maintenant, je ne sais pas quel statut elle a, mais il y a quelques années, elle existait encore, elle doit toujours exister, mais enfin, ça ne me plaisait pas du tout.
J'y avais fait deux ans quand même.
J'ai été deux ans, puis finalement, j'ai réussi à me faire foutre à la porte, pour parler poliment. Et à ce moment-là, en 42, je suis entré en classe préparatoire à La Martinière, ici à côté. À l'époque, avec La Martinière Thérault, donc l'école des garçons, là, à côté. Donc c'est là que je suis entré en 42. Ça a son importance, on en reparlera après, certainement. Hein. Donc, voilà. Alors, ma mère, entre-temps, avait changé de travail. Elle travaillait à Villeurbanne, dans une fabrique de casseroles, qui était rue Antonin Perrin à Villeurbanne à l'époque. Voilà, parce que je ne me rappelle plus, il y avait les restrictions sur les tissus, tout ça. Un grand manufacturier des Vosges, ils avaient dû fermer ou quelque chose dans ce goût-là. Donc. Bon, c'est peut-être un peu plus tard qu'elle est allée là-bas à Villeurbanne, je ne me rappelle pas exactement. En 42, je suis rentré à La Martinière. On habitait toujours au même endroit. Entre-temps, les Juifs avaient dû se faire recenser dans les commissariats ou les mairies, ce qu'on n'a pas fait, nous. On n'est jamais été recensé, ce qui fait que j'ai jamais eu sur ma carte d'identité le tampon juif, ce qui a permis, un an ou deux plus tard, à ce qu'on la modifie, cette carte. C'est-à-dire, parce que ma mère avait pu reprendre son nom de jeune fille Meyer sur ses pièces d'identité. Bon, il y avait beaucoup de protestants, il y en a peut-être encore qui s'appellent Meyer. Donc, c'était son nom de jeune fille Meyer. Et moi, je m'appelais toujours Bloch, et on l'avait transformé, c'est mon grand-père qui a fait ça, en Blachet. Remplacer le haut par A et ajouter le T à la fin. Mais c'était une pièce officielle, avec les tampons officiels, il avait fait ça bien, bien calligraphié. À l'époque, ça se faisait à la main, les pièces d'identité. C'était pas par machine à écrire ou par ordinateur, encore moins. Donc c'était plus facile à modifier. Donc on n'a jamais eu le tampon juif sur nos cartes d'identité.
Votre mère était juive aussi, ou c'était que votre père qui était juif?
Ah non, non, mon grand-père, elle s'appelait Meyer, on est juifs d'origine. Parce que mon grand-père était né à Belfort, donc à l'époque, en 1874, il est né français, puisque le territoire de Belfort n'était pas annexé par l'Allemagne. Là, ma grand-mère était née à Lyon, sa famille était originaire de Cernay en Alsace, mais enfin, quand elle est, ils habitaient Lyon en 1878, quand elle est née, bon, ils étaient à Lyon, donc, ou originaire de Cernay, mais elle est née à Lyon, elle. Donc, voilà, ma mère, elle est née à Lyon, donc, mais enfin, on était d'origine juive. Hein. Mon père, lui, bien sûr, il s'appelait Bloch, mais alors, le problème de mon père, c'est qu'il était né à Guebwiller, en 1894. Et ça m'a posé un problème, on en parlera en temps voulu tout à l'heure. Voilà, donc il est né allemand, mon père. Donc on en est donc en 1942, hein, à Martinière.
Martinière.
On habite toujours au même endroit, on n'a pas bougé. Hein. On était, bon, on vivait, on se cachait. Bon, la seule chose, c'est quand je sortais de l'école, où j'étais demi-pensionnaire pour ne pas être dans les rues toute la journée... Hein, moi je mangeais à la Martinière. Bon, quand je partais le soir, je partais vite, alors que les copains allaient plate des terreaux, vous savez, à l'époque il y avait Martinière des garçons, Martinière des filles, tout le monde se réunissait plate des terreaux. Hein, moi je filais en vitesse.
Vous redoutiez quoi?
Je redoutais, alors voilà, je partais en vitesse de la Martinière, je redoutais qu'un copain, sans le vouloir, ait quelque chose à me dire et m'interpelle. « Hé, Bloch !» Parce qu'on s'appelait par nos noms. Et qui est là, hein, quelqu'un qui aurait pu entendre. Donc j'évitais, et puis j'évitais toujours de rester comme ça dans des groupes où il pouvait y avoir des contrôles d'identité. On ne sait jamais, là, des terreaux, des jeunes réunis, il pouvait y avoir des contrôles. Donc parce que j'avais bien ma carte d'identité Blachet, mais j'étais rentré sous le nom de Bloch. Que cette carte d'identité a été modifiée plus tard.
Ah oui.
En 1942, j'avais toujours ma carte d'identité Bloch, hein, c'était déjà un problème. Présenter ma carte d'identité sous ce nom, sans le tampon juif, c'était... Alors donc, j'évitais de rester dehors. Vous voyez, je reprenais le tram ou je rentrais à pied, mais je me dépêchais de rentrer et c'était tout.
Vous risquiez quoi à ce moment-là, si on avait découvert que vous n'aviez pas le
tampon? On savait que les juifs étaient arrêtés. Mais on n'en savait pas plus, on savait que les juifs étaient recherchés.
Les juifs français, pas encore?
Ah oui, mais enfin, on se méfiait quand même. Hein. On ne nous spécifiait pas juifs étrangers ou quoi. Puis le gouvernement de Vichy, on n'avait pas trop confiance non plus. Hein. Il y avait eu toutes ces lois anti-juives. Pourquoi avoir fait ces lois qui concernaient bien les juifs français aussi, qui interdisaient toutes ces professions? Donc il y avait bien quelque chose sous roche. Et on se méfiait. Par contre, on ne savait pas ce que les gens arrêtés pouvaient devenir. Ça, on l'a ignoré jusqu'au bout.
Oui.
Tant qu'on a été en France, on ignorait. On ignorait la suite dont on parlera.
Au fond de la cour, un vieux musicien qui venait de loin jouait les mêmes refrains. Vieux Salomon, c'est le seul prénom que l'on connaissait de lui avec ses chansons. Toutes les filles et tous les garçons, le cœur plein d'entrain, les chantaient à l'unisson. Elles ont bercé les premiers pas, les premiers jeux, les premiers feux des jours heureux qui commençaient. Souviens-toi comme on vivait chez nous. Je me souviens d'un temps où tout me paraissait si doux. Souviens-toi, nous étions impatients, encore enfants, de découvrir le monde à chaque instant. Souviens-toi, à la douceur de la rue. Je me souviens et je revois tout ce que j'ai vécu. Tous les visages oubliés se sont levés et sont venus pour me parler du temps passé. Au fond de la cour, quand le musicien qui venait de loin jouait les mêmes refrains. Vieux Salomon, c'était ton prénom, mais tu jouais si bien sur ton violon tes chansons. Le temps passait et le ciel si bleu, chaque jour sur nous s'assombrissait peu à peu. Et les chansons sur le violon de Salomon semblaient nous dire que l'amour allait mourir. Au fond de la cour, quand ils sont venus et l'ont emmené qu'il faisait froid dans nos cœurs. Vieux Salomon, c'est le seul prénom que l'on ait gardé de toi avec tes chansons. Mais aussi loin que tu sois parti, dans la nuit des temps sur le chemin de l'oubli, où que tu sois, j'entends la voix de tes chansons sur ton violon, vieux Salomon. Et je n'oublie pas, la 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 la, n'oublie pas, la 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 la, n'oublie pas, la 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 la, et je n'oublie pas.
Donc voilà, donc la vie s'écoulait comme ça jusqu'en début 44. Là, début 44, en février à peu près, ma grand-mère apprend, je ne sais pas comment, qu'il y avait des raves de juifs à Lyon. Je ne sais pas d'où elle tenait ça, mais enfin, elle avait appris. Donc, il est décidé qu'on va quitter Lyon, qu'on va aller en banlieue, quitter nos appartements où on était connus dans le quartier, etc. Bon, alors on part en février, on trouve quelque chose dans une maison, des gens qui ont bien voulu nous héberger, enfin nous louer un petit appartement dans leur maison, dans un premier étage, il y avait trois petites pièces, hein, et eux ils ont gardé le rez-de-chaussée, ils prenaient des risques, mais je sais pas s'ils étaient conscients qu'ils prenaient des risques, je sais pas, mais enfin toujours est-il qu'ils en prenaient. Donc on s'est installé dans ce petit trois pièces.
C'était où ?
Tous les quatre à Crépieux-les-Brosses. Crépieux qui à l'époque était une commune autonome et qui maintenant est rattachée à Rieux. Bon, ça s'est fait après la guerre, ça. Donc on était à Crépieux, quartier des Brosses, chemin de Bellevue, qui est maintenant le chemin Victor Bache. Parce que Victor Bache, qui était président de la ligne des droits de l'homme et juif, avait été arrêté et a été fusillé avec sa femme, non loin de l'endroit où on était du reste.
Abattu par la milice.
Crépieux, abattu par la milice. Il habitait à l'époque Grandonne-Saint-Clair. Donc c'est maintenant ça s'appelle chemin Victor Bache pour ça, parce que c'est non loin de là qu'il a été assassiné. Donc on arrive là, bon, on était entre guillemets cachés, parce qu'il fallait bien qu'on continue à vivre. On pouvait pas, on n'était pas dans une boîte, on s'est pas déclaré en prison. Ma mère travaillait, moi je continuais à venir à la Martinière. Donc tous les matins, on n'avait qu'un bus qui pouvait nous descendre pour l'heure voulue, à 6h30, il partait de Crépieux. Donc on prenait ce bus, on arrivait vers 7h à Lyon, on allait boire un café dans un bistrot qui existe toujours derrière l'église Saint-Nizier, la rue Édouard Herriot. Hein, on buvait un café avec ma mère, elle prenait prendre son tram numéro 3 à l'époque qui l'emmenait à Villeurbanne. Et moi, je venais pour 8 heures, on commençait à 8 heures à la Martinière. Donc, ma foi, la vie s'écoulait comme ça. On rentrait le soir, mais là, séparément, on n'avait pas toujours les mêmes horaires. On rentrait, et puis alors, souvent, là, on en arrive à un point de ce qu'on parlait tout à l'heure, il y avait des contrôles d'identité. Et curieusement, le soir, le matin, pratiquement, je ne me rappelle pas en avoir eu. Mais le soir, il y avait quelquefois des contrôles d'identité dans le bus, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient le bus. À l'époque, ils partaient du quai Jules Courmont, à la hauteur des Cordeliers, et ils traversaient le carrefour du pont Lafayette, ils continuaient le quai pour monter à Saint-Clair et Crépieux. Et puis c'est là, entre le pont Lafayette, le pont Morin, dans ces coins, souvent il était arrêté, contrôle d'identité. Alors police ou milice ou n'importe qui, ou Gestapo, montait et essayait de passer, parce qu'on était très nombreux dans ces cas, passer entre les gens et demander les pièces d'identité. Moi, debout, puisqu'on était nombreux, j'avais mon carton entre les pieds et chantais ma carte d'identité au nom de Blachet. Mais le problème, et ça j'avais la trouille chaque fois, il fallait pas le faire voir, c'est que dans mon carton, j'avais mes cahiers et mes livres à mon vrai nom. Puisqu'on a modifié ma carte d'identité plutôt début 44. Hein. Donc en 42, j'étais rentré sous mon vrai nom à la Martinière. Donc j'avais mes livres et mes cahiers avec le nom dessus, bloc, et puis j'avais ma carte d'identité, Blachet. Ils m'ont jamais demandé d'ouvrir mon carton pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais chaque fois, il fallait pas que je le fasse voir, mais intérieurement, j'avais la, il faut le dire, j'avais quand même un peu la trouille. Donc voilà, ça se passe passer comme
il
ça.
Il n'allait pas plus loin parce que j'ai recueilli le témoignage de gens qui, à Perrache, M. Pestouri a vu les policiers obliger les jeunes à se déshabiller pour...
Oui, mais peut-être en sortant de la gare, il y avait plus de... Là, dans le bus, on était comme ça. Hein. Ils avaient de la peine à passer entre nous pour vérifier. Bon, ils auraient pu nous faire descendre du bus. Et dire au bus, vous partez, il débrouillera bien pour entrer, on va contrôler. Bon, ça ne s'est pas produit.
C'est jamais produit.
Je suis passé au travers. Si ça s'est produit, ça ne s'est pas produit pour moi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Finalement, on n'avait pas eu tort de s'en aller, puisqu'au mois de mai 1944, l'appartement de mes grands-parents a été pillé par la milice. Ils ont fait casser la porte par un serrurier, parce qu'ils avaient une fermeture 5 points à l'époque, et le serrurier est arrivé, impossible d'ouvrir cette porte. Donc ils l'ont cassé pour entrer. Du reste, maintenant, elle est réparée, il y a des planches derrière qui tiennent sous un rideau. Mais extérieurement, ça ne se voit pas qu'elle a été cassée, mais elle l'a été. Ils sont entrés, ils ont tout pillé, ils ont installé un bureau là. C'est un bureau, ils étaient plusieurs. Et ils sont restés comme ça jusqu'à la libération de Lyon, enfin jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Donc ça c'était autour du... Ah, c'était avant le bombardement du 26 mai 44. Parce que je me rappelle que le bombardement du 26 mai 44 de Lyon, j'étais à l'école, ça s'est produit vers les 11h, 11h30, et on avait une composition de chimie, les sirènes, tout le monde aux abris, on était content parce qu'on n'a pas eu la composition de chimie. Bon, et en sortant, quand même, je suis parti, j'étais demi-pensionnaire, mais ils nous ont laissé sortir ce jour-là, pour que les jeunes aillent voir quand même chez eux comment c'était. Donc je suis parti, et de loin, j'ai vu que les immeubles dans le coin n'étaient pas touchés. Ça s'était passé de l'autre côté du Rhône, à Niederberthelot et rue Chevreul. Mais comme le bruit courait, qu'ils avaient été à Perrache, etc., donc j'étais allé voir. Donc c'est la seule fois que je suis allé dans le quartier pendant cette période. Donc, bon, il n'y avait rien. Bon, ben, on s'est dit, finalement, si on avait été là, ils nous auraient ramassés. Hein. Donc, on l'a échappé. On a bien fait de partir. Le mois de juin arrive, 44. Le 6 juin, le débarquement. Tout content. Bon, ben, les alliés arrivent. Au bout de 3-4 jours, on voyait que ça avançait. Hein, malgré qu'on ne nous disait pas tout. Mais enfin, qu'on s'est dit, eh ben, on touche à la fin. On a encore une chance de s'en sortir. Et puis, voilà. Bon, le mois de juin s'est écoulé comme ça, et puis on arrive au 28 juin 44. Alors là, le 28 juin 44, Philippe Henriot, ministre de l'information du gouvernement de Vichy, est abattu par la résistance. Il sonne chez lui, il l'ouvre, il l'abatte. Bon, comme ils ont fait, comme ça a été fait il y a quelques années pour René Bousquet. Mais on en reparlera aussi de celui-là.
Des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Donc, il est abattu. Ce 28 juin, qui est un mercredi, pour moi, c'était le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Ce mercredi 28 juin, ma mère, elle est en congé maladie depuis quelques jours. Elle part plus travailler. Mon grand-père, mes grands-parents, bougeaient jamais de la maison, surtout mon grand-père. Il sortait jamais, je me suis toujours demandé ce qu'il faisait.
Ils habitaient avec vous.
Oui, mais oui, on était tous les quatre, mes grands-parents, ma mère et moi. Mais après, je vous verrai pourquoi je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, ça se passait comme ça. Donc ce 28 juin, Henriot est abattu. Lui qui, chaque soir à la radio, faisait une allocution où il stigmatisait les résistants, qu'il appelait des terroristes, les juifs, les francs-maçons, les communistes, tous les jours, tous les soirs. Bon, la résistance l'abatte. Grand branle-bas de combat dans les milieux miliciens. Paul Touvier, qui avait des détenus dans ses cellules, impasse rue Sainte-Hélène, à l'angle de l'impasse Catelin, hein, maintenant c'est le lycée Saint-Marc, il avait ses locaux là. Donc, il détenait des gens, là, et des juifs, des résistants et des juifs. Il décide, à titre de représailles, d'en fusiller 8. Donc, il fait sortir, entre-temps, il envoie aussi ses miliciens faire des rafles dans tout Lyon. Mais enfin, bon, il avait déjà les 8, là. Il les fait sortir dans le couloir, chez lui, dans ses locaux. Puis un milicien vient lui parler à l'oreille. Sur les 8, il en fait, à la suite de ça, il en fait retourner un en cellule. Alors, pourquoi il l'a fait retourner en cellule? Le milicien était venu lui dire, celui-là, c'est pas un juif, c'est un résistant. Ce qui a permis beaucoup, il s'appelle Monsieur Goudard. Ce qui a permis beaucoup plus tard, quand il a été, lors de son procès, de ses inculpations, d'être inculpé de crimes contre l'humanité. De ce fait même-là. Sinon, c'était des crimes de guerre. Donc, mais il avait bien gardé 7 hommes pour les fusiller parce qu'ils étaient juifs, en raison de leurs origines. Donc, il les garde là, et le lendemain matin, devant le cimetière de Rieux, il les fait fusiller, il y va, il est présent, il les fait fusiller.
Tout en haut du chemin qui mène à la colline, entre les bouquets de thym et les lavandes bleues, cette noire cyprès qui s'appuie contre le ciel tranquille, cette noire cyprès qui porte des prénoms: Benoît, Guillaume, Armand, Julien, Vincent, Ferdinand et Jean-Pierre. Tous des garçons de 20 ans du village voisin, amoureux fous de la vie, ivres de leur jeunesse. Sept partisans pris au cœur d'un maquis. Furent emmenés en haut du chemin qui mène à la colline, parmi les bouquets de thym et les lavandes bleues. Jamais Provence n'avait paru si belle, si tranquille, en cette nuit qui se ferma sur eux. Un seul éclair, un seul cri, la vallée frissonna tout entière. Depuis ce jour, la nature semble porter le deuil. Plus de chants de tourterelles, de grillons, de cigales. Plus de sardanes, jamais plus de chansons. Vous trouverez tout en haut du chemin qui mène à la colline, entre les bouquets de thym et les lavandes bleues, cette noire cyprès qui s'appuie contre le ciel tranquille, cette noire cyprès qui porte des prénoms.
Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas, on arrive au jeudi 29 juin. Le matin, ma grand-mère part, elle avait rendez-vous chez le dentiste l'après-midi. Elle nous dit, j'ai rendez-vous cet après-midi chez le dentiste, je pars par le bus du matin, je ferai des courses à Lyon et à ce soir. Donc, elle s'en va. Moi, ce 29 juin, premier jour de vacances pour moi, je vais dans la cour de la villa, là, je vais nettoyer mon vélo, bien comme il faut, parce que notre propriétaire avait dit à ma mère, votre fils est en vacances, j'ai de la famille dans la Drôme, si vous voulez, je peux l'y emmener, il sera plus tranquille qu'ici, plus à l'abri qu'ici. Là-bas, ils n'ont jamais vu la trace d'un Allemand, hein, ou de la Gestapo, ou qui que ce soit. Ma mère dit d'accord, donc on devait partir en vélo dans la Drôme le vendredi 30 juin. Donc j'astique mon vélo, sur le coup des 11h, je monte faire ma toilette, et puis je m'habille en scout parce que je faisais du scoutisme, je continuais quand même. Et l'après-midi, tous les jeudis après-midi, on avait une réunion à Lyon. Donc je m'habille en scout, et puis à ce moment-là, j'ai à peine fini, deux hommes arrivent, et demandent après nous, donc ils savaient qu'on était là. Alors comment? Je sais pas, je me suis toujours posé la question. Dénonciation, les gens devaient pas tellement nous connaître sous notre nom. Suivi peut-être, on descendait tous les jours à Lyon, j'ai jamais su. Pour le pillage de l'appartement de mes grands-parents, oui, je sais. J'ai eu des doutes qui sont confirmés par la suite. Bon, maintenant la personne est décédée. C'est fait, j'en ai jamais parlé. Mais enfin, si vous voulez, je vous dirai pourquoi j'ai eu des doutes sur ce garçon. On en reparlera si vous voulez après. Donc voilà, donc ils arrivent. Le propriétaire qui était au rez-de-chaussée, pas très tranquille sûrement, leur a dit ils sont au premier étage, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils montent. Et après j'ai su que l'un des deux était ouvrier et un acolyte. On vient vous arrêter, préparez une valise, on vous emmène. Le ouvrier, il sort son revolver. L'autre, il commence à fouiller un peu les deux, trois pièces qu'on a là, il ne trouve rien naturellement. Bon, on se prépare. Moi, j'avais un costume, ma mère me dit, change-toi. Je me change, j'avais un costume à l'époque marron. Une veste et deux pantalons, un pantalon long, un pantalon court. On dit maintenant un short, mais c'était comme un costume comme ça. Moi, j'attrape mon pantalon court, elle me dit, mets ton pantalon long. En réalité, c'était un pantalon de golf. Bon, je fais ce qu'elle me dit, c'était au mois de juin, hein, fin juin, il faisait chaud. Je mets mon pantalon long, je discute pas. Je prends ma veste, on prépare une valise, elle prépare une valise, et il nous embarque dans une petite voiture, genre une Juve à 4, c'était grand comme les 4L qu'on a connu. Donc il nous embarque là-dedans, et nous voilà partis, et curieusement, il nous emmène.
Les 4
Les 3. Ma grand-mère était partie le matin. Donc il y avait mon grand-père, ma mère et moi. Du reste, quand on est descendu au rez-de-chaussée de la maison, mon grand-père demande à aller aux toilettes. Il lui accorde. Or, il a eu 3 secondes d'hésitation. Parce que il y avait deux portes, l'une à côté de l'autre. Une les toilettes, l'autre la cave. Et j'ai senti une hésitation de sa part. Descendre à la cave, il pouvait filer dans les vorgines derrière, il y avait une issue dans la cave. Et il a dû penser que nous, on était là. Donc, il est réellement entré aux toilettes. Il est ressorti et on est parti. On est arrivé au siège de la Gestapo.
Et votre grand-mère, il ne la cherchait pas? Il savait qu'il y avait 4 personnes, non?
Non, mais attendez, nous, pour le moment, on a été 3. Elle n'était pas là. Mais eux, ils ont regardé.
Touvier, ils savaient qu'il...
Probablement qu'il le savait, je ne sais pas. Mais on va reparler, justement. Donc... Il nous emmène au siège de la Gestapo qui était transféré à Bellecour, puisque le 26 mai 1944, l'école de santé militaire où ils avaient leur siège, où il y a maintenant le CHRD, avait été bombardée. Donc ils s'étaient repliés dans l'immeuble 32 place Bellecour, à l'angle de ce qui est maintenant la rue Saint-Exupéry. Hein, cet immeuble, il y a une grande cour, un portail, là, ça s'appelle Bellecour, on entre, ils nous font sortir de la voiture. Ils nous font descendre dans la cave, là il y a une descente de cave, on la voit toujours, qui est à l'extérieur dans la cour. Ils nous font descendre dans la cour où il y a déjà des chaises alignées, il y a déjà des gens assis. À l'entrée, il y a un Allemand, là, la porte est là, si vous voulez, nous on tourne le dos à la porte. Il y a un Allemand avec une grande torpe qui écrit le nom des gens qui arrivent. Et on nous fait asseoir, interdiction de parler, de tourner la tête, etc. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, l'un des deux que j'avais arrêté, le petit, la pote ouvrier, mais l'autre, il vient chercher mon grand-père et ma mère pour l'interrogatoire. On était dans les locaux de la Gestapo, ce sont des miliciens. Il vient chercher mon grand-père et ma mère pour l'interrogatoire. Ils partent tous les deux, moi ils me laissent là sur ma chaise. Et j'attends. Et au bout d'un moment, un quart d'heure, 20 minutes encore, une demi-heure, je ne sais pas, ma mère descend seule, en pleurs. Elle arrive à me glisser dans l'oreille, ils ont tué ton grand-père. Effectivement, au bout d'un moment, j'entends son nom à la porte, pour le gars qui était en train de sortir. Alors malgré tout, je me retourne. Et effectivement, je l'ai vu sur l'épaule du milicien qui nous avait arrêtés. Tout habillé, le chapeau sur la tête. Ça a été assez rapide. Donc je suppose qu'il avait 70 ans. Et il avait un peu d'emphysème. Ils ont dû lui plonger la tête dans un lavabo ou un truc comme ça pour le faire parler. C'est pour ça que je vous disais, je me suis tout demandé ce qu'il faisait. Il sortait jamais de la maison. Il sortait pratiquement jamais de sa petite chambre. Il a bien rectifié ma carte d'identité. Oui. Je me suis toujours demandé, j'ai jamais su, jamais trouvé quelqu'un à qui demander, qu'il ait pu connaître, quoi. Toujours est-il, bon, qu'il était mort. On avait été arrêté à midi moins le quart. À midi et demi, on arrivait à Bellecour. À une heure et demie, deux heures moins le quart, il était mort. Donc voilà, donc on a passé l'après-midi comme ça sur nos chaises. Et le soir, ils nous embarquaient pour Montluc, pour la prison de Montluc. Là, arrivé là-bas, ils nous ont mis en cellule, tout le monde ensemble, enfin à 7-8 par cellule. Hein. Moi, j'étais avec ma mère, ils avaient pas séparé les hommes et les femmes, là, tout le monde, ils bourraient les cellules. On a passé la nuit comme ça. Puis le lendemain matin, ils m'ont fait sortir de la cellule. Ma mère, elle est restée en cellule, comme toutes les femmes juives. Et puis moi, ils m'ont fait sortir, ils m'ont mis dans la baraque, qu'ils appelaient la baraque aux Juifs, qui était construite dans la cour de Montluc. Donc j'ai été mis dans cette baraque. Donc ça, c'était le 30 juin 44, le lendemain de notre arrestation. Bon, cette baraque était grande, très grande. On était peut-être une centaine là-dedans, mais enfin, elle était grande. Plus grande que ce qu'elle est maintenant, parce que maintenant ils ont mis des pierres pour la. Mais en réalité, elle était beaucoup plus grande. Il y a un mur au fond qui paraît qu'ils vont démolir, mais enfin bon. Elle était assez grande. On pouvait aller venir. C'est le gros avantage qu'on avait sur les gens en cellule. Ma mère est restée en cellule, ils étaient minimum 7 par cellule. Quand on voit les cellules, on se demande comment 7 personnes pouvaient tenir là-dedans. Donc on était dans cette baraque toute la journée, bon, on faisait rien. Mangé par les punaises, naturellement, comme dans toutes les prisons et partout. C'était en plus une baraque en bois, alors ça ne manquait pas. Donc on était mangé par les punaises. Mais enfin, bon, on allait en messe, et surtout la nuit qu'elle était embêtante. Moi, je me rappelle, il paraît qu'il y avait quelques chalis, c'est-à-dire ces murs, ces lits superposés en bois. Je me rappelle même pas, mais moi, il n'y en avait pas pour tout le monde. Je me rappelle être couché par terre. Donc le soir, on se couchait. Bon, ils nous amenaient à manger peut-être une fois par jour. Hein. Et puis, ma foi, la vie s'écoule. Les jours passaient comme ça, on ne faisait rien de la journée. Et puis, par deux fois, pendant que j'étais dans cette baraque, le matin, assez de bonne heure, lumière, un Allemand à la porte qui appelle une liste de noms par alphabétique. Alors, on savait par les anciens, ceux qui étaient là avant nous, que ces listes arrivaient périodiquement et qu'il y avait deux formules possibles, sans bagage, avec bagage. Les deux fois, c'était sans bagage. Ce qui voulait dire que les gens appelés ne reviendraient plus, puisque sans bagage, ça voulait dire qu'ils étaient destinés à être fusillés. Donc ils partaient. Et après, il y en avait d'autres qui arrivaient, qui avaient été arrêtés. Bon. Puis comme ça, ça s'est passé jusqu'au 20 juillet 44. Ce 20 juillet 44, nouvelle liste, de bonne heure le matin, vers 5-6 heures peut-être le matin, l'Allemand qui épluche une part alphabétique, une liste de noms, je suis appelé dans les premiers. Hein, mon nom commençant par un B, j'étais dans les premiers. Il a fallu que j'attende la fin de la liste, qui était relativement longue, pour m'entendre dire à la fin « avec bagage ». Ce qui voulait dire, on savait aussi par les anciens, qu'on était transféré ailleurs. Ils nous font sortir dans la cour.
Beaucoup d'angoisse à ce moment-là pour vous?
Ah ben, beaucoup d'angoisse le temps qu'ils arrivent à la fin de la liste. Un B, le temps qu'ils arrivent au Z, il y avait du monde. Hein, je sais pas, ils avaient peut-être appelé une cinquantaine, une soixantaine, enfin, on a été nombreux à partir quand même.
Et l'idée de partir avec bagage, c'était un soulagement pour vous?
C'était un transfert ailleurs, on ne savait pas où.
Mais vous aviez de l'angoisse de partir, vous auriez...
Non, c'est-à-dire j'ai de l'angoisse de, quand j'ai entendu mon nom. Ouais. Mais sachant avec bagage, bon, ben on verra bien ce qui se passera après. Ça voulait déjà dire qu'on n'était pas fusillé tout de suite. Après, on savait pas l'avenir, on connaissait rien de ce qui se passait après. Ici à Lyon, moi, personnellement, dans ma famille, on n'avait jamais entendu parler. Alors, est-ce que mes grands-parents, ma mère savaient? J'en sais rien. Hein, puisque le coup du pantalon long, là, je me suis toujours posé des questions. Mais bon, moi, je savais pas. Il m'appelle avec bagage, donc on est transféré ailleurs. Je suis pas fusillé tout de suite. Je retrouve ma mère dans la cour, qui avait été appelée également dans sa cellule ce 20 juillet 44. Ils nous laissent nous regrouper, on monte dans des bus qui nous amènent à Gare Perrache. Gare Perrache du côté, ce qu'ils appelaient Perrache 2 à l'époque, je pense que c'est là que parlent les trains pour Saint-Étienne maintenant en travers, là-bas, les voies au fond, F, un truc comme ça. Donc il y a un train composé de wagons de voyageurs qui nous attend. Alors les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, bon, ma mère part d'un coin du train, moi dans l'autre, ils nous mettent dans les compartiments. Pour 8, ils nous mettent 10 par compartiment, enfin on s'est arrangé quand même. Il y en avait deux qui avaient le repose-tête dans le dos, mais on se changeait. Moi la nuit, ils me faisaient monter dans le filet parce que j'étais le plus jeune. Je faisais 45 kilos à l'époque, j'avais 15 ans, ma mère en avait 40. Donc, le voyage se passe, on part ce 20 juillet. Le 21 juillet, comme je dis souvent, il n'y avait pas encore le TGV à l'époque, on arrive à Dijon le lendemain. Le train s'arrête en gare de Dijon. Et là, des cheminots arrivent à nous dire, parce que les vitres avaient été condamnées, on ne pouvait pas... arrivent quand même à nous dire, les Allemands ne devaient pas trop surveiller, je ne sais pas. Il y a eu un attentat contre Hitler hier, le 20 juillet 44. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. On sait juste qu'il y a eu un attentat. Bon, nous, on s'est dit, peut-être que les choses vont changer s'il a été tué. Bon, malheureusement, il n'a pas été tué. Donc, c'était le 21 juillet, le train repart. Et le 22 juillet, on arrive dans une gare, ils nous font descendre. On ne savait pas où on était. Bon, j'ai su après que c'est la gare de Bobigny, à l'époque. On est arrivé à cette gare de Bobigny. Des bus nous emmènent à 3 km de là, 3-4 km, à Drancy. Drancy, c'est un camp qu'ils avaient ouvert en 1941. Hein. Ils avaient d'abord mis quelques prisonniers de guerre anglais principalement. Et ensuite, ça avait été vraiment affecté pour rassembler les juifs, destinés, mais ça nous on ne le savait pas, destinés à déportation. Bon, il y en avait eu d'autres d'autres camps, mais là c'était vraiment le camp principal à ce moment-là, c'était Drancy.
Et votre grand-mère pendant tout ce temps?
Alors, la grand-mère, alors, vous allez me reposer la question. Le jour qu'on a été arrêté, elle est rentrée le soir, par le quart du soir. Mais la propriétaire l'attendait à l'arrivée du quart. Elle lui dit, vous pouvez pas rentrer à la maison. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ça se trouve, ils sont planqués là et ils vous attendent. Mais le quart, entre-temps, il était reparti. Et ma grand-mère, qui marchait avec une canne, elle s'est tapée de Crépieux-les-Brosses, ça fait une dizaine de kilomètres, jusqu'à Saint-Clair à pied, où elle a eu la chance de trouver l'un des derniers trams avant le couvre-feu, qui l'a ramené dans le centre-ville. Donc elle est arrivée dans le centre-ville, elle est allée chez quelqu'un qu'elle connaissait, lui demander de l'héberger. Bon, la personne a accepté, mais elle a pris la trouille. Le lendemain, elle lui a dit, vous êtes bien gentil, mais enfin... il faut trouver autre chose. Bon, alors elle a navigué comme ça, des cousins à Rouen. Elle a pu trouver un train qui l'a emmené à Rouen. Elle a logé chez ses cousins quelque temps. Au bout de quelques jours, 8-10 jours, pareil, cousin pour cousin, si tu pouvais trouver autre chose, ça serait bien. Parce qu'elle n'était pas juive du tout. Hein. Si tu pouvais trouver autre chose, ça serait bien. Elle est repartie, elle a trouvé à Feur une chambre à louer. Quelqu'un a bien voulu louer une chambre à Feur. Et c'est là, quand elle était à Feur, qu'est intervenue la libération de Lyon et de la région. Donc pour elle, ça a été 2 mois très, très durs. Ça a été deux mois, hein, juillet-août. Après, elle est revenue à Lyon, 3 septembre, les ponts démolis. Elle m'a expliqué après, c'est un soldat qui l'a pris sur ses épaules, qui lui a fait traverser le pont de chemin de fer de Perrache pour la ramener dans la presqu'île. Elle est arrivée chez elle, bon, complètement ravagée. Heureusement, l'appartement qu'on avait avec ma mère sur cour, il ne l'avait pas touché. Il n'avait pas dû savoir que c'était à nous. Donc elle est allée habiter là pendant quelques temps. Elle a fait remettre, comme elle a pu, son appartement en état. Mais comme il y a toujours des gens gentils au monde, quand elle a pu le récupérer, cet appartement, au bout d'un certain nombre de mois, mais toujours est-il qu'on était partis, nous on n'était pas là. À l'époque, il y avait eu comme personne ne pouvait se loger, il y avait eu des décrets qui avaient été mis, une personne tant de mètres carrés, tant de personnes tant de mètres carrés, etc. Il y a des braves gens qui sont allés dire au service du logement, qui était dans le palais de la mutualité à l'époque, il y a une dame là qui habite toute seule dans l'appartement de 100 mètres carrés, c'est pas normal, elle reçoit un ordre de réquisition. Alors il a fallu qu'elle aille expliquer, se battre. Finalement, ils ont annulé l'ordre de réquisition. Donc elle a pu récupérer à ce moment-là son appartement.
Qu'il nous fallait porter par une étoile fasciné. Certains hommes avaient trop vite oublié la couleur de la liberté. La liberté. La liberté. Comment s'imaginer l'enfer quand on est du bon côté? La foi et nos prières nous donnent ce courage, cette force de pouvoir résister encore. Cette rage fera de nous un peuple de volonté. Un passé sans lumière qu'aucun être ne saurait oublier. Bon citoyen, tu te voulais, toi, corbeau de ma destinée, sur papier blanc pour dénoncer de tes mots où le venin sortait, accusé, condamné. Jalousie, envie te nourrissait, vieux sentiments en vérité. Tant de rêves en toi se sont brisés, enfin tu pouvais exister, convoité, possédé. Comment s'imaginer l'enfer quand on est du bon côté? La foi et nos prières nous donnent ce courage, cette force de pouvoir résister encore. Cette rage fera de nous un peuple de volonté. Un passé sans lumière qu'aucun être ne saurait oublier. Comment s'imaginer l'enfer quand on est du bon côté? La foi et nos prières nous donnent ce courage, cette force de pouvoir résister encore.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de trois avec Claude Bloch. Cette première émission était consacrée au sujet de l'histoire de sa famille et du récit de son vécu de la période du début de la guerre jusqu'au 22 juillet 1944 où il se retrouve à Drancy. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Vieux Salomon de et par Francis Lamarck. Puis c'était Le Roi des Salauds, un texte de Pierre Dac qu'il interprétait lui-même sur l'air du Duc de Bordeaux. Ensuite, Michel Murty interprétait sa composition Les Cyprès. Puis c'est Jeff Cohen qui interprétait deux pièces de Joseph Kosma, des Chants du Ghetto, le 3 tout d'abord La Question Éternelle et puis le 2 Berceuse. Et enfin, La Vie d'Aline, interprétée sur une composition de Brigitte Rivaton et Sophie Loitron, 1943. Dans notre future émission, Claude Bloch évoquera son séjour depuis son départ de Drancy par le dernier convoi, celui du 31 juillet 1944, et son internement à Auschwitz jusqu'à son évacuation en avril 1945. Nous remercions Claude Bloch d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque.
Thank you.
femme, son frère et son enfant. Quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. C'est pas de la rengaine, la gavelise, passant, pas d'études que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, qu'une chante qu'on les bise, mais on les claque. Claque.